Onde noire, retour, suite et fin. Jacques, tu vas nous parler d'un Lehan qui n'est pas Denis.
Et non, c'est un monsieur qui s'appelle Cornelius Lehan.
C'est plus joli d'ailleurs comme prénom.
C'est assez joli, oui. Le roman s'appelle Les fantômes du vieil hôtel. Il est publié dans la collection Rivage Noir, donc la collection petit format, pour 9,50 €. Il est traduit de l'américain par Madame Fabienne Duvigneau. Ce roman, Brian McNulty, officie au bar du Savoy Hotel à New York, dans la 48e rue. Un hôtel, un bar un peu démodé, mais qui fonctionne toujours, disons, tranquillement. McNulty, c'est donc le personnage principal, comme tous les bons barman, sait écouter, sait raconter de belles histoires et aussi préparer d'excellents martinis. Mais, élevé par un père communiste, il ne supporte absolument pas les injustices ni les magouilles.
Ce qui doit être quand même assez rare là-bas, mais bon.
Encore moins quand il s'agit
de... communiste, pardon.
Oui, en plus, oui. Encore moins quand il s'agit de son boss et de l'implication du syndicat des employés de bars et restaurants. En plus, son collègue barman, qui est irlandais lui aussi, McNulty est irlandais,
ça
mais
ça devient
bon,
un pléonasme, barman voilà. Irlandais, mais voilà. Bon.
Il se fait agresser et l'agression est assez sévère parce qu'il se fait couper l'extrémité des doigts de la main gauche, ce qui est quand même pas très facile après pour faire barman. Et donc là, même si ça lui a coûté déjà sa place dans les meilleurs établissements de Manhattan dans lesquels travaillait avant Brian McNulty, il va remettre sa casquette qui s'est un peu inventée par la force des choses de casquette de détective.
Et Cornelius Lehan l'a beaucoup aidé à inventer cette casquette.
Bien évidemment. Donc voilà, on a un roman qui est new-yorkais et irlandais. Ça, c'est plutôt classique. Mais un roman avec un barman aux fortes tendances gauchistes, un rouge donc. Et alors là, dans les romans américains, c'est quand même plutôt rare. La classe ouvrière de New York, les syndicats qui ont une vision, comment dire, très personnelle de la défense de leurs adhérents.
Ça, par contre, on l'avait déjà entendu parler. On retrouve souvent quand même dans les bons romans américains, pas les thrillers.
Thomas Kelly dans Racket, voilà. Tout ça, c'était, il racontait ses histoires. Mais là, ça revient. Alors le roman commence par un ton plutôt léger. Bon, c'est dans un bar, on boit des cocktails, ça c'est... C'est pas un peu un style irlandais dans un pub. Et puis, ça devient de plus en plus sombre au fur et à mesure de l'enquête du barman. Bref, en gros, je peux que vous conseiller de lire ça. Et c'est un cocktail, puisque ça se passe dans un bar. Un gros quart de corruption, un bon quart de meurtre sordide, un autre de lutte des classes, une bonne dose de flic véreux, une petite pincée d'ira.
Et le dernier quart, puisqu'on va arriver aux cinq quarts, non ? C'est pas comme les quatre tiers, non ?
Non, c'est trois quarts plus quelques petites... Et un soupçon de corporatisme, on met tout au shaker, pas à la cuillère, s'il vous plaît, et on obtient un très bon roman, où se mêle, c'est ça qui fait la force et la qualité de ce livre, ça, il se mêle à New York fantasmé, un peu par tous ceux qui semblent connaître New York, et un New York parfaitement réaliste. Il faut préciser, parce que ça se passe dans les années 90, c'est un roman de New York réaliste, mais d'avant le 11 septembre. Parce que maintenant, tous ont cette imprégnation qui... Donc celle-là, il n'y est pas du tout.
On pourrait presque le conseiller à Scorsese, finalement, celui pour l'adapter.
Voilà, et je voulais juste préciser que c'est la troisième enquête de Brian McNulty, et que le premier était vraiment aussi excellent. C'est là qu'on faisait la connaissance de Brian, de son père, de son fils, de ses copains et de ses bars. Et il avait un titre qui était merveilleux, qui s'appelle « Prends garde aux buveurs solitaires ».
Effectivement, très beau titre. Donc c'est chez Rivage Noir,
voilà.
Et ça s'appelle donc...
« Les fantômes du vieil hôtel ».
Eh bien, on va rester dans cette collection, c'est vrai qu'on vous en parle souvent, Rivage Noir. Mais là, on part en Italie, avec « L'homme de dos » de Giacomo Cacciatore, et c'est traduit par Françoise Brun. Cette chronique, en fait, elle pourrait avoir comme sous-titre « Famille, je vous hais ». Et je suis d'ailleurs persuadée qu'André Gide aurait aimé ce roman. Mais laissons l'auteur parler. Petite lecture. « Non, n'appelle pas ça de l'amour », aurait voulu hurler Giobbe Di Lei. 35 ans, une gastrite en préparation, navré d'être venu à la maison une fois de plus. Et uniquement parce qu'il n'avait pas le choix. Une chienne qui grogne sur sa portée aveugle, oui. Égoïsme, chantage moral, oui. Mais amour, non. Ce mot-là, tu l'oublies. La chienne dont il parle, c'est tout simplement sa mère. Déplacée, me direz-vous. Oui, mais au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire, vous dites que Giobbe, le personnage principal de Giacomo Cacciatore, il a bigrement raison. Giobbe, il est malheureux depuis l'enfance, avec une mère pareille, évidemment. Un père mort, pas de grand amour. Quand il a une copine, elle est ni intelligente ni jolie. Et puis ses rêves, ses cauchemars, où il voit continuellement un homme de dos qu'il connaît mais qu'il n'identifie jamais, qu'il n'arrive jamais à identifier. Et le pire, c'est le chantage de sa harpie de mère. Il ne peut accéder à sa bibliothèque que s'il accepte de manger avec sa mère. Fine, finaud en diable, puisqu'il adore ses livres. Et sa mère emplit le frigo de bons morceaux de viande et de ragoût. Alors, pour enfin profiter de ses chers livres, attention, cher, C-H-E-R, pas C-H-A-I-R, quoique, on se demande, ne faudrait-il pas se débarrasser, justement, de sa trop chère mère ou de sa mater, par trop dolorosa d'ailleurs? Mais au fait, la viande froide, est-ce qu'elle provient vraiment d'un boucher, celle qui est dans le frigo? Voilà, là vous avez tout le début du roman, c'est une merveille. On parle souvent des Italiens qui truffent leurs romans noirs de moments conviviaux de repas, mais là, on atteint des sommets dans les métaphores culinaires et culturelles, et dans le roman noir. 50-60 premières pages, comme je l'ai dit, c'est un petit bijou d'humour noir, où l'on va et vient entre mots et mets, entre la saveur d'un plat et la noire crudité d'une scène de boucherie digne d'un film de Robert Rodriguez. Puis, petit à petit, sans se départir de son humour, l'écrivain nous entraîne dans une lente descente aux enfers, dans le cerveau hébété de Giobbe, qui tente désespérément de recoller les morceaux entre une réalité qu'il n'a jamais su maîtriser et des rêves qu'il pressent comme salvateurs. Peut-être que c'est une approche carrément psychanalytique. Il n'y a pas d'autre mot que l'auteur utilise pour nous raconter, de brillante façon, l'histoire, le destin du pauvre Giobbe. Un roman cruel et tendre, où l'auteur a su se débarrasser de tout le superflu, de tout voyeurisme superfétatoire, chemin le plus facile et le plus couramment utilisé. En ces temps de frilorisme, on va dire. Lui, non. Il utilise une narration, utilisons la métaphore culinaire jusqu'au bout, mitonnée aux petits oignons. Bref, un vrai régal. En conclusion, encore une fois, famille, je vous hais, et je vous recommande fortement la lecture de L'Homme de dos. En plus, pour une fois, c'est pas un roman de 500 ou 600 pages, à peine 200 pages, rien de trop, impeccable. Giacomo Cacciatore, nouveau venu dans le monde du polar en France. Je ne sais pas s'il a écrit d'autres livres en italien. Et je rappelle le nom de la traductrice, Françoise Brun. Petit moment de musique.
Petit moment de musique. Bah, puisqu'on était en Italie, on va y rester avec un trompettiste italien qui est même sarde, dont on a sûrement parlé dans cette émission, c'est Paolo Frizzo, parce qu'on l'aime beaucoup. Et lui, c'est famille, pour le, je vous hais pas, au contraire, famille, je vous aime, parce que c'est un morceau qu'il a écrit, une berceuse, qu'il a écrit pour son bébé nouveau-né, qui s'appelle Andrea. Et donc, le morceau s'appelle « Nini Nana per Andrea ».
Et voilà, donc un morceau de Paolo Frezu.
Extrait de son nouvel et excellent album, un double album qui s'appelle Songline Night and Blue, qui est vraiment, je recommande absolument.
Et pour la prochaine chronique, en général, on met plutôt du rock, mais le jazz s'y est fort bien aussi à Jean-Marc Laherrère. Jean-Marc Laherrère, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue de nouveau en 2011 dans notre émission. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler d'un roman qui se passe entre autres en Amérique du Sud.
Oui, et bonne année à tous d'abord. Donc pour faire un peu original en cette première chronique 2011, je vais vous parler pour une fois d'un roman qui n'est pas vraiment un polar, voilà, ni qui a été écrit par un auteur de polar, puisque c'est L'homme qui aimait les chiens, du cubain Leonardo Padura, donc qui est publié chez Métellier, et qu'ils sont mis à deux pour le traduire. Il y a René Solis et Elena Sayas. Alors, ça se passe entre autres en Amérique latine, oui, puisque ça commence à Cuba.
Ça commence à Cuba.
Voilà, on est en 2004, au tout début du roman, où on est avec Ivan, un journaliste et auteur cubain, ex-journaliste et auteur, frustré, qui survit en soignant des chiens, des cochons, un peu dans les alentours de La Havane, alors qu'il avait eu l'intention d'être un écrivain. Et en 2004, à la mort de sa femme, il décide qu'il va sauter le pas de nouveau, se mettre à écrire parce qu'il a un sujet. Il a un sujet qu'il traîne depuis 1977, où il a rencontré plusieurs fois sur une plage un homme étrange qui se promène avec deux magnifiques lévriers russes.
D'où le titre du livre.
D'où le titre du livre, parce qu'en plus, il l'a rencontré un jour où il lisait une nouvelle de Raymond Chandler que je connaissais pas, qui s'appelle L'homme qui aimait les chiens aussi. Voilà.
Ah, donc c'est un connu bataillon aussi.
Voilà, moi aussi. Donc il y a des tiroirs partout. Et cet homme, lui, mystérieux, qui a l'air de pouvoir voyager, qui a l'air de connaître beaucoup de choses, lui parle de Ramón Mercader. Alors Ramón Mercader,
je pense
au départ,
que ça dit quelque chose à tout le monde, mais on va quand même
rappeler qui c'est, parce que en particulier pour ce journaliste cubain à cette époque, ça ne lui dit rien. Ramón Mercader, c'est l'assassin de Trotsky, l'homme qui lui a mis un coup de piolet sur le crâne. Et donc cet homme étrange lui parle de Ramón Mercader, il lui parle de sa vie, il lui parle de comment un jeune républicain espagnol révolté a été extrait du front de Madrid où il se battait contre les franquistes pour devenir une arme dans les mains de ce qui est devenu le KGB et l'arme qui allait abattre Trotsky. Voilà, et donc le roman passe entre trois personnages. Ramón Mercader, donc on suit depuis le moment où il sort de la guerre d'Espagne. Trotsky, que l'on suit depuis le moment où il est expulsé du RSS, et on voit donc son exil à travers la Turquie, l'Europe et finalement le Mexique, en passant par la maison de Diego Rivera. Et puis cet écrivain, Ivan, qui petit à petit se rend compte de ce qu'on est en train de lui raconter, fait des recherches et arrive aux conclusions impensables, puis arrive à découvrir beaucoup de choses. Alors, c'est un roman monumental, absolument monumental, il y a plus de 600 pages.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est déjà un gros roman, mais monumental aussi par la façon dont c'est traité.
Exactement, monumental par l'ambition, monumental par la façon dont c'est traité, monumental parce qu'on va, voilà, on passe de lui à la neige en Sibérie aux brigades internationales et aux luttes de pouvoir entre les différentes factions, enfin, les différents groupes de gauche dans la Barcelone, les intérêts, la main de Staline sur tout ça, le Mexique qui accueille Trotsky. Il met en scène de façon incroyable un niveau de haine entre des gens qui finalement, vu de l'extérieur et naïvement, auraient dû être plutôt du même côté. On voit tout ça, il construit tout ça, il le construit. Alors, tout ça c'est de l'histoire, tout ça c'est très réel, mais il le construit de façon littéraire. Parce qu'il n'a pas son pareil pour justement passer d'un personnage à l'autre, créer une tension en utilisant des légers décalages de temps entre l'histoire de Trotsky et celle de Ramón Mercader, qui ne se passe, les chapitres ne se correspondent pas jusqu'à ce qu'ils se rapprochent jusqu'au meurtre, avec une dramatisation vraiment époustouflante. Le dernier chapitre sur le meurtre, il est éblouissant. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a le grand talent d'un écrivain qu'on connaît comme l'auteur de voilà des policiers, des romans policiers avec son personnage de Mario Conde. Il y a tout ça, il y a Cuba, il y a aussi la situation à Cuba maintenant, et donc il y a l'histoire de cet assassinat, l'histoire aussi de l'assassinat en même temps de toute une idée, puisque finalement cette très belle idée du XXe siècle qui est confisquée et pervertie par ce qu'est devenu le stalinisme, et qui fait que maintenant cette idée est associée automatiquement à terreur, à meurtre, à tout ça, alors ce qui arrange bien finalement ce qu'elle dérangeait le plus.
On peut même dire dictature.
Oui, dictature, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Et au-delà, ce qu'il met bien en avant aussi, c'est au-delà du fait de tous ces gens qui sont morts, qui ont souffert, qui ont été atroces, c'est le fait qu'on a rendu cette idée-là quasiment honteuse pour longtemps, pour très longtemps, alors que c'était peut-être la plus belle ou au moins une des plus belles idées du XXe siècle.
Ah bah c'était une idée généreuse au départ, en tous les cas.
Voilà, donc toute cette générosité...
Je pense que les gens d'en face se sont très bien débrouillés pour faire croire ça à tout le monde.
Pour faire croire que c'était l'idée qui était voilà, mauvaise et non pas ce qu'on en a fait. Exactement. Voilà. Mais personne ne leur a rendu un aussi beau service que Staline et que cette façon de pervertir cette idée. Ce qui est très fort aussi dans ce livre, c'est que Padura ne juge pas, sauf quelques responsables, pour lesquels il n'a pas de pitié. Mais même Ramon Mercader, il ne le juge pas. Et comme son personnage d'Ivan, qui pourrait être un peu son alter ego, il finit par ressentir de la compassion pour lui, parce qu'il voit d'où il est venu, il voit en quoi il a cru, on suit avec lui comment il est trompé, comment il croit agir pour le bien jusqu'au moment de la terrible désillusion, et ça non plus. Il y a un personnage extraordinaire qui est son mentor soviétique qui va le former, lui aussi on finit par avoir la compassion pour lui. C'est très très fort ça de la part de Padoua. Ouais.
Et c'est typique aussi d'un grand romancier de romans noirs qui évite souvent tout manichéisme.
Exactement. Oui. C'est là qu'on retrouve le roman noir là et dans sa façon de créer la tension qui est extraordinaire.
Et l'écriture est vraiment magnifique. C'est vraiment.
Et on peut aussi saluer le travail des traducteurs parce que vous dites qu'ils s'y sont mis à deux, mais c'est vrai que l'écriture est vraiment, le style est vraiment superbe.
Oui.
Et c'est vraiment un roman épique, enfin une grande envolée, absolument magnifique. Mais moi, où je trouve quand même qu'il y a quand même vraiment beaucoup de romans noirs dans cette histoire, c'est cette façon de raconter l'histoire par rapport à des destins personnels. On a en Amérique du Sud de grands écrivains qui savent très bien faire ça.
Oui, c'est vrai. Et alors, pour ceux qui iront, parce qu'il sort demain ce livre, je suis un peu en avance, vous verrez qu'il y a un tout petit clin d'œil à Mario Conde en moment.
Ah.
Les habitués le reconnaîtront, et surtout les habitués comme vous qui sont sensibles à la musique. Mais je n'en dis pas plus.
Voilà, deux petites pistes là.
Voilà.
Eh bien, Jean-Marc Laherrère, merci beaucoup.
D'ailleurs,
je rappelle qu'on peut vous retrouver sur le net avec votre blog très très alimenté Actu du Noir.
Voilà.
Donc plein de coups de cœur en perspective. Donc encore une bonne année, plein de bonnes histoires noires.
Ça
et puis à très bientôt.
Très bien. Voilà,
à
très bientôt. À bientôt. Au revoir.
Donc on va rappeler... Les premiers titres dont nous avons parlé, les BD en particulier, donc Le Chasseur, Jacques, aux éditions d'Argo.
De Darwin Koch et Richard Stark, et la traduction de Tonino Benacquista.
La position du terreur couché, Manchette Tardy. Et enfin, n'oubliez pas de commander sur le site des éditions Baleine, La mort des autres, numéro double et néanmoins unique. Bye bye, à bientôt.